Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour et qui a pris la décision d'arrêter de fumer. Ainsi, je suis dans le modèle rationnel, hein, c'est-à-dire que désormais, j'ai des bonnes raisons d'arrêter de fumer. X connaît les effets de la tabagie sur la santé, les risques d'accidents cardiovasculaires, de cancer du poumon ou de la gorge. X veut s'arrêter de fumer, car il ne veut pas courir le risque d'une maladie grave, d'une mort prématurée. X en a discuté avec des proches, des médecins, qui lui ont donné tous les arguments pour arrêter de fumer. X a toutes les raisons, en termes de connaissances et de volonté, d'arrêter de fumer et de passer ainsi du discours à l'action. Et là, on se dit, cinquièmement, X s'arrête de fumer. Eh bien, pas forcément. Ça peut être aussi 6, X continue de fumer. C'est-à-dire que même si vous avez rempli toutes les cases, hein, disons des paramètres de la rationalité, ça ne veut pas dire forcément que vous allez arrêter de fumer. Vous allez même continuer pour certains à fumer. Donc tout ça, finalement, n'a été d'aucun effet. Si maintenant on prend le modèle expérientiel de l'Aritaza, c'est différent. Hein. Ça ne veut pas dire que le fait de vivre certaines choses, ça va vous permettre à coup sûr, hein, d'arrêter de fumer. En ce sens-là, l'expérience serait plus efficace que la raison. Mais simplement, ce que je veux suggérer ici, c'est que ce sont d'autres modalités qui peuvent elles aussi, hein, jouer leur rôle, hein, dans le changement. X a de plus en plus de mal à monter les escaliers, il est essoufflé au bout de 5 marches. X constate qu'il a souvent mauvaise mine le matin et qu'il a pris un coup de vieux. X a vu plusieurs de ses amis fumeurs touchés par la maladie finir à l'hôpital, certains à la morgue. X a utilisé plusieurs moyens pour arrêter de fumer, les patchs, le sport, l'hypnose, les médicaments, etc. Donc vous voyez ici, on a une variété de voies possibles, d'expériences, aussi d'expérimentation. On va tester certaines choses, il y en a qui vont marcher, on croyait qu'on avait arrêté, et puis en fait on rechute, etc. Donc c'est une vision plus complexe en fait du changement, et qui me semble assez intéressante, au-delà, hein, du changement strictement rationnel, c'est-à-dire le changement qui est motivé par des bonnes raisons, mais qui n'est pas toujours efficace, parce que ça nous montre, effectivement, que le changement n'est pas linéaire, forcément, qu'il n'est pas garanti, qu'il a une dimension d'incertitude, hein, d'échec aussi, qu'il faut assumer, voilà, dès qu'on rentre dans notre processus. Alors, j'en viens maintenant au rôle du discours dans le changement. Alors, je mentionne ce point, si vous voulez, parce que, alors, notamment sur le plan philosophique, mais en sachant que, disons, la philosophie finit par diffuser aussi et par inspirer, hein, certains dispositifs tout à fait concrets, nous avons une tendance à pas mal nous polariser, hein, sur des modèles qui font intervenir, on va dire, le discours rationnel, c'est-à-dire l'idée qu'on trouve par exemple chez quelqu'un comme Habermas, hein, c'est cette idée selon laquelle il faut mettre en place des dispositifs, hein, de discussion, dans lesquels des gens qui pourtant ont des conceptions différentes, des intérêts différents, des valeurs différentes, vont pouvoir échanger des arguments, et donc c'est sur la base, hein, de la force, hein, du meilleur argument, hein, que finalement nous allons faire bouger nos décisions. Et on se rappelle ici Charles Sandpeur, c'est-à-dire, si on vous a montré que le fondement de votre croyance est nul et non avenu, vous devez changer, hein, c'est immoral de ne pas changer. Mais en fin de compte, ce n'est pas si simple. Et là aussi, je pense qu'il faut sortir, hein, de ces modèles rationnels discursifs, hein, du changement, hein, qui ont beaucoup polarisé l'attention et qui ont inspiré aussi des dispositifs, par exemple, de débats publics très, très nombreux ces dernières années, dans lesquels, justement, on crée des dispositifs, disons, d'échanges rationnels, argumentés, en pensant que c'est ça qui va faire bouger les gens. Et comme dirait Bourdieu, il y a une hystérésis, hein, de l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a une inertie, quand même, des positions qui fait que c'est pas si simple, finalement. Soit parce que, ça y est, en sortant d'un débat public, hein, vous êtes regonflé à bloc, motivé pour changer la face de la Terre, y compris le cours de votre vie, que pour autant, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a une inertie des habitudes. Donc ici, on a deux modèles, l'un discursif et l'autre qui montre les limites, hein, de ce modèle discursif. X a changé de position à la suite d'une discussion D avec autrui et sur la base d'un argument A. La limite de ça, hein, c'est X n'a pas changé de position à la suite d'une discussion D avec autrui et sur la base d'un argument A. Ou dit d'une autre manière, X a changé de position à la suite d'autre chose qu'une discussion D avec autrui et sur la base d'autre chose qu'un argument A. Alors je voudrais juste dire 2 mots ici, hein, sur la limite de ce changement rationnel et discursif. Ça correspond à ce que, pour ma part, j'appelle, dans un premier temps, le discours d'action. Il y a quelque chose qui me fascine depuis longtemps et dont nous avons des exemples quotidiens actuellement. C'est ce que j'appelle le discours d'action. C'est-à-dire, vous êtes tout à fait troublé, et tout rapport avec l'actualité est fortuit, de gens qui tiennent des discours très hauts et très forts, de nature morale d'ailleurs, sur ce qu'il faut faire, sur la manière dont on doit se comporter, etc., et qui dans leur vie font exactement le contraire. Comme si c'était des gens complètement dissociés, clivés, la limite schizophrène, vous voyez, même si bon, c'est un mot qui a un sens technique, hein, mais là je prends dans un sens commun, c'est-à-dire personnalité clivée, quoi, en fait. Hein. Et c'est très troublant, comment une telle chose est possible, c'est-à-dire comment vous pouvez par exemple être un militant dans des mouvements féministes et commettre des viols ou des abus sexuels sur des femmes. C'est assez troublant. Alors peut-être que les psychologues, les psychanalystes expliquent ça très bien. Mais une hypothèse philosophique ici, qu'on peut avancer, mais qui est intéressante aussi par rapport à la question de l'écologie, c'est que finalement, ça peut avoir sa cohérence hein, de parler très haut et très fort sur le fait qu'il faut changer, qu'il faut se comporter d'une certaine manière, alors que soi-même, on ne le fait pas, ou on n'est pas du tout capable de le faire, parce que justement, dans ce cas-là, quand on est dans cette posture, c'est comme si le discours était une action. C'est-à-dire, c'est comme si le discours était une manière d'accomplir une action que l'on se sait incapable d'accomplir soi-même de toute façon. Et c'est pour ça qu'on va d'autant plus parler très haut et très fort, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas capable d'être en conformité, d'être en cohérence dans nos actes avec nos discours. Hein, ça peut être une manière d'éclairer, disons, cette scission, hein, ce clivage qui est entre les discours et les actions. Autre aspect, hein, c'est le regard d'autrui, hein, qui nous éloigne ici d'un modèle un peu dialogique, vous voyez, discours rationnel, argumenté, etc. Parce que c'est la dimension mimétique du changement, c'est-à-dire le fait que finalement, lorsque j'envisage un changement en songeant, disons, au regard que je porte sur moi-même, en fait, ce regard que je porte sur moi-même est médiatisé par le regard qu'autrui porte sur moi. Vous voyez, pour donner un exemple très très simple, c'est parfois quelque chose qui peut exister aussi, qui peut expliquer pardon, la résistance au changement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont lié de façon très forte leur rang ou leur statut social à la propriété matérielle. Ils ont une grosse maison, ils ont un gros 4x4, etc. Et c'est un indicateur en fait de leur rang ou de leur statut social. Le regard qu'ils portent sur eux-mêmes est dépendant du regard que les autres portent sur eux, c'est-à-dire le fait qu'on les voit comme des gens importants parce qu'ils ont des possessions, des propriétés matérielles. Et du coup, ce qui les effraie quelque part, c'est que ce regard que les autres portent sur eux change complètement du fait qu'ils vont renoncer hein, à ces possessions, ces propriétés matérielles, qui sont un critère hein, de leur rang et de leur statut social. Hein, c'est ce que Vulliard m'appelle l'interaction spéculaire, c'est-à-dire le détour que je fais par le regard d'autrui hein, pour... disons, avoir un certain regard sur moi-même. Il y a aussi hein, la force de l'habitude et la faiblesse de la volonté. Alors, j'avais prévu de dire quelques petites choses hein, sur la faiblesse de la volonté, hein, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que en philosophie, hein, depuis Aristote, hein, qui parle de l'akrasia, c'est-à-dire la faiblesse de la volonté, donc l'akrasie, hein, nous savons que malgré hein, toutes les bonnes raisons que nous pouvons avoir de faire quelque chose, il y a quelque chose qu'on appelle la faiblesse de la volonté, ou en tout cas qui est énoncé dans ces termes-là, donc l'akrasie. Et donc il y a tout un ensemble de débats aujourd'hui en philosophie pour savoir de quelle nature est justement hein, cette faiblesse de la volonté, ce qui fait qu'il y a quelque chose visiblement qui m'empêche hein, de passer à l'action. Alors une des clés, on va dire, des controverses qu'il y a hein, pour essayer de comprendre justement ce que c'est que cette notion d'akrasie, de faiblesse de la volonté, hein, c'est l'idée selon laquelle le fait d'avoir des raisons d'agir ne se confond pas exactement avec la motivation d'agir. Hein. Une raison d'agir, c'est pas exactement la même chose qu'une motivation. Plus exactement, vous avez des gens qu'on appelle pompeusement, vous voyez, les externalistes et qu'on oppose aux internalistes, qui vont considérer que soit une raison d'agir égale une motivation d'agir, donc soit, hein, dans le camp des autres, les externalistes, une raison d'agir n'équivaut pas à une motivation d'agir. Alors je vais terminer hein, sur la question des habitudes. Alors ici, je vous avais donné toute la palette en fait hein, des voies du changement. Hein, c'est un article, un chapitre que j'ai publié dans un ouvrage qui s'appelle Critique du dialogue. Donc l'acteur, le réseau, le cadre, hein, dans lequel j'ai essayé de, de donner un aperçu de ce que pourrait être l'ensemble des modalités hein, du changement. Et par rapport aux modalités dialogiques, vous voyez, discussion, délibération externe, qui a une dimension rationnelle, en fait, il y a tout un ensemble de modalités possibles. Et alors, je voudrais juste mentionner deux points, ici, qui me paraissent importants, dans l'optique de la transition écologique. C'est la modalité poétique, hein, au sens étymologique du mot poétique, c'est-à-dire le sens hein, de la narration ou du récit. Je pense que c'est très important, c'est peut-être quelque chose qui est sous-estimé, ou en tout cas quelque chose que nous avons du mal à appréhender, parce que du mal à construire ou à produire dans le cas de la transition écologique, c'est l'importance d'une narration et d'un récit qui donne du sens à notre action. Ça rejoint un petit peu ce que disait Jérôme tout à l'heure sur le problème de l'utopie, des idéaux. C'est-à-dire nous devons changer, nous devons éventuellement faire des sacrifices, mais pour construire quel genre de société exactement ? Pour rester comme maintenant ? Ou pour construire quelque chose de complètement nouveau. Mais tout ça suppose quand même que nous soyons capables d'indiquer avec un peu de précision ce que serait cette nouvelle société. Donc de rentrer dans quelque chose qui s'apparente à une narration ou un récit. Voilà. Qui nous indique comment nous passons à cette nouvelle société et quelle est cette nouvelle société, ou éventuellement cette nouvelle vie hein, que nous voulons construire. Également la dimension fantasique, la fantasia en grec c'est l'imagination. Hein, le rôle très important que joue l'imaginaire, me semble-t-il, le rêve aussi, hein, dans la motivation hein, du changement. Et nous avons un problème peut-être imaginaire aussi dans la transition écologique. Et c'est particulièrement net, si vous voulez, chez des gens qui considèrent que la transition écologique, ça serait juste un empilement de mesures d'incitation matérielle, de l'ordre de la fiscalité, vous voyez. Et c'est complètement illusoire de croire que les gens vont changer avec ça. Ça va peut-être être un facteur de changement pour certaines personnes, mais je ne sais même pas si c'est nécessaire, mais on peut très probablement dire que ce n'est pas suffisant. Alors je voudrais revenir à Pierre Rabhi avec une autre citation extraite de son ouvrage Vers la sobriété heureuse, puisque on voit bien que ce thème de la sobriété heureuse, hein, c'est un thème qui est assez lié en fait à la notion d'ascèse, hein, qui comprend hein, la dimension d'exercice, comme nous l'avons vu, et la dimension de sacrifice éventuel. Voilà. Voici ce que nous dit Pierre Rabhi, qui évoque de nouveau cette difficulté qu'il a à définir ce qu'est la sobriété heureuse. Alors même qu'il est convaincu que c'est la voie que nous devons suivre. On me demande souvent ce que j'entends par cette sobriété heureuse que je prône comme une sorte d'antidote à la société de la surabondance sans joie dans laquelle les pays dits développés se sont enlisés. Cette idée résonne en moi comme une nécessité inspirée par une analyse des faits objectifs et quantifiables qui détermine, à mon avis, l'avenir de la façon la plus rigoureuse. J'avais adopté le terme de décroissance soutenable, mais j'ai dû renoncer à ce terme au motif qu'il suscitait beaucoup de malentendus. La seule économie qui vaille est celle qui produit du bonheur avec de la modération, car on ne peut appliquer à une planète naturellement limitée un principe artificiel illimité. En même temps que le réenchantement du monde que nous aurons à accomplir, la beauté étant à l'évidence une nourriture immatérielle absolument indispensable à notre évolution vers un humanisme authentique, nous devons également et impérativement trouver une façon juste d'habiter la planète et d'y inscrire notre destin d'une manière satisfaisante pour le cœur, l'esprit et l'intelligence. J'entends par beauté celle qui s'épanouit en générosité, équité et respect. Celle-là seule est capable de changer le monde, car elle est plus puissante que toutes les beautés créées de la main de l'homme, qui, pour foisonnantes qu'elles soient, n'ont pas sauvé le monde et ne le sauveront jamais. En réalité, il y va de notre survie. Le choix d'un art de vivre fondé sur l'auto-limitation individuelle et collective, et des plus déterminants, cela est une évidence. La sobriété heureuse ne peut se réduire à une attitude personnelle, repliée sur elle-même. Partant d'un art de vivre, nous sommes impérativement invités à travailler à la sobriété du monde. En passant de la logique du profit sans limite à celle du vivant, il est question, en langage savant, de changer de paradigme. Refonder l'avenir sur la logique du vivant implique d'abord de renoncer aux mythes fondateurs de la modernité qui sont incompatibles avec ce propos. Il est absolument certain que la sobriété, si elle devait se propager, serait un formidable antidote aux excès destructeurs. Changer de paradigme signifie, selon nos aspirations, mettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et tous nos moyens à leur service. Donc on voit ici hein, ce propos de Pierre Rabhi qui fait un effort pour expliciter ce qu'il entend par sobriété heureuse, même s'il reconnaît la difficulté hein, de cette définition. Mais ce qui me paraît intéressant ici, c'est hein, cette idée d'un changement de paradigme, hein, changer de paradigme, changer de modèle, de cadre de référence. Et cette notion de paradigme me paraît intéressante parce que, évidemment, ça fait appel à beaucoup de choses dans l'histoire de la philosophie, et on même dans la philosophie ou la sociologie des sciences, hein, la notion de paradigme chez Thomas Kuhn, hein, dont on sait par exemple qu'elle n'est pas totalement rationnelle, en ce sens que ce qui fait que on passe d'une théorie scientifique à une autre, par exemple, hein, chez Thomas Kuhn, hein, ce n'est pas simplement qu'on a eu plein de bons arguments, hein, qui militent en faveur du changement de théorie, c'est aussi parce que il y a eu une sorte de bifurcation, hein, dans la conception que l'on se fait, la conception fondamentale. Et Thomas Kuhn, par exemple, prend l'exemple du canard-lapin. Vous savez, une image de canard-lapin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'image. Hein, vous voyez dans la même image qui, elle, n'a pas changé, tantôt un canard, tantôt un lapin. Hein, l'image n'a pas bougé. Simplement, c'est le sens que vous donnez à l'image qui a bougé. C'est ça, un peu, je pense, la notion de changement de paradigme qui me paraît intéressante, hein, qui se situe à un niveau assez fondamental et qui n'est pas tributaire uniquement, hein, des bons arguments que nous avons, hein, pour changer. Donc changer de théorie dans le cas de Kuhn, mais on pourrait dire aussi changer de pratique. Et c'est ce passage de la théorie à la pratique, effectivement, qui me paraît très problématique. Et alors, dans le même travail, hein, sur l'acteur, le réseau et le cas, qui est un des papiers sur lesquels j'avais examiné cette notion de paradigme, hein, j'essaie de suggérer qu'en plus du paradigme, il y a ce que j'appelle une matrice. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien changer de paradigme, mais tout le problème reste, hein, de la traduction, en fait, de ce changement de paradigme, c'est-à-dire de vision du monde, de vision de la vie, dans un ensemble d'habitudes, dans un ensemble de règles de vie qui permettent de négocier, hein, votre rapport au milieu naturel, social, quotidien. Et ça reste quelque chose, hein, d'assez problématique, hein, surtout si on songe à cette inertie des habitudes, hein, qu'on trouve très bien chez quelqu'un comme Bourdieu, par exemple, à travers cette notion d'habitude, même si d'habitude, c'est pas exactement l'habitude. Alors je termine pour de bon cette fois-ci, hein, par la conclusion. Donc ce que j'ai essayé de montrer, hein, c'est que ce changement humain, c'est une notion qui recoupe des aspects très divers, hein, changement humain, non humain, changement rationnel, non rationnel, etc. Et on voit ici qu'il possède une forme d'ambivalence, en ce sens qu'on peut le concevoir comme un changement dans la continuité ou comme un changement en tant que rupture. Voilà. Et il y a tout le problème de l'identité, hein, de l'individu qui perdure lorsqu'on produit ce changement. Et ce problème de l'identité prend d'ailleurs une résonance sociale, hein, puisque quand vous rentrez dans un processus de changement, évidemment, c'est quelque chose qui vous met à l'épreuve, hein, de votre propre identité. Mais c'est aussi quelque chose qui met à l'épreuve votre identité dans le regard d'autrui. Donc vous devez aussi donner des gages ou envoyer des signaux selon lesquels le changement dans lequel vous rentrez, qui peut apparaître comme assez solitaire, assez personnel à certains égards, permet malgré tout de maintenir chez vous une certaine identité. C'est-à-dire vous êtes toujours le même malgré tout, hein, même si vous êtes rentré dans ce processus de changement. Alors la notion d'ascèse ici peut s'entendre, enfin peut se comprendre donc, dans le sens de l'exercice du sacrifice, mais on peut demander si finalement derrière les conceptions, on va dire, plutôt matérialiste, hein, du changement. Si en comparaison on prend la dimension spirituelle qui nous renvoie à la notion d'exercice spirituel que j'ai évoqué, un changement de ce point de vue-là, c'est un changement de philosophie. Mais un changement de philosophie au plan théorique, c'est-à-dire dans la conception du monde, mais un changement aussi de philosophie, si on se réfère aux philosophes de l'Antiquité, philosophie pratique, c'est-à-dire un changement de règles de vie aussi. Et ici, on peut voir tout le problème, hein, du rapport entre le changement des habitudes de pensée et le changement des habitudes de conduite, hein, des habitudes de vie. Alors, je voudrais terminer en évoquant, hein, ce que peut être cette ascèse du changement, en reprenant justement le rapport qui se trouve impliqué dans la notion d'ascèse entre l'exercice et le sacrifice. Le changement de soi suppose un ensemble d'exercices qui eux-mêmes supposent un ensemble de sacrifices. Première version, c'est-à-dire il y a le lien évident, nécessaire entre l'exercice et le sacrifice. Deuxième approche, le changement de soi suppose un ensemble d'exercices qui ne suppose pas, quant à eux, un ensemble de sacrifices. C'est quand même l'idée un petit peu de la sobriété heureuse, selon laquelle le changement, certes, c'est quelque chose qui peut se décréter, mais c'est surtout quelque chose qui s'entretient, qui s'éprouve, qui s'expérimente, mais ça n'implique pas forcément de sacrifice, c'est-à-dire une sorte de renoncement volontaire qui peut équivaloir presque à se couper un bras, parfois. Et troisième point, troisième approche, qui me semble assez intéressante pour cette réflexion sur la transition écologique, Le changement de soi suppose un ensemble d'exercices qui eux-mêmes supposent un ensemble de sacrifices, mais ces exercices ont précisément pour fonction de changer le sens du sacrifice, de sorte que ce qui, avant l'exercice, était tenu pour un sacrifice, n'est pas ou n'est plus, après l'exercice, tenu pour un sacrifice. C'est-à-dire, en fait, je pense que c'est peut-être ça un des enjeux importants, hein, des dispositifs ou des processus de changement, hein, dans la transition écologique, c'est qu'en fin de compte, il faut modifier notre regard sur la notion même de sacrifice également. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même si le changement, ça implique un sacrifice au sens de renoncement volontaire à quelque chose, parce que je pense qu'il est assez difficile d'imaginer qu'on va avoir un changement sans aucun sacrifice. Mais dans ce cas-là, ce qui importe, effectivement, c'est de changer le sens même du sacrifice. C'est-à-dire ce que nous considérions comme un sacrifice, il y a quelque chose qui revient à se couper un bras, ce n'est peut-être pas un sacrifice, en fait. C'est peut-être quelque chose qui nous permet de vivre mieux. C'est aussi un des points, hein, qu'on souligne parfois, lorsque on essaie d'examiner justement cette motivation pour le changement ou ce sens, hein, que peut avoir le changement pour nous. J'en termine pour le moment. Merci pour votre attention.